Bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire des aveugles.
Ils traversent ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel. Ô cité, pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, je dis, que cherchent-ils au ciel, tous ces aveugles ? Charles Baudelaire.
Ans d'histoire. Pendant des siècles, les aveugles ont inspiré des sentiments contradictoires. Tantôt le mépris, la peur et même l'horreur de ceux qui considéraient la cécité comme une tare ou une malédiction. Tantôt au contraire la compassion, la pitié et même l'admiration. Celle qu'inspirait par exemple l'aveugle le plus célèbre de l'Antiquité, Homère, dont les yeux morts, disait-on, lui permettait de voir ce qui était invisible pour les autres hommes. Mais avant qu'au XIXe siècle, le procédé de Braille permette aux aveugles de s'intégrer dans un monde qu'ils ne pouvaient pas voir, ils ont toujours vécu en marge d'une société, incapables de guérir ou de soulager leur malheur. Pendant des siècles, ils ne pouvaient compter que sur la charité et l'assistance, en espérant le miracle par lequel, dans le Nouveau Testament, Jésus avait déchaîné la colère des gardiens du temple en rendant la vue à un aveugle.
Je vois. Je ne suis plus aveugle, c'est un miracle. Je vois ta figure.
Ce vieux fourbe n'a jamais été aveugle.
Non. Nous, membres du temple, nous savons qu'il peignait seulement de l'air.
Peignait sa vie.
Il ment. C'est un imposteur. Il n'a jamais été aveugle.
Comment expliques-tu que tu puisses rendre la vue aux aveugles?
Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir.
Selon toi, nous qui sommes des justes, sommes aveugles.
Si vous étiez aveugle, alors vous seriez pur et sans péché.
Zina Végan, bonjour.
Bonjour.
Dans un des très rares livres d'histoire consacrés aux aveugles, qui s'appelle « Vivre sans voir » et que vous venez d'écrire aux éditions Créafis, vous rappelez tous les sentiments contradictoires qu'ont toujours inspiré les aveugles. On vient de l'entendre dans cet extrait de film. Il y a la méfiance ou le mépris, tantôt au contraire l'idée que grâce à leur infirmité, les aveugles sont plus sages et plus purs que les autres hommes. Et ces sentiments contradictoires, on les retrouve tout au long de l'histoire des aveugles.
Oui, certes. Ce sont des sentiments qu'on retrouve déjà. Bon, moi, j'ai commencé mon livre au Moyen Âge, mais évidemment, bien avant cela, dans l'Antiquité, où effectivement, les aveugles à la fois peuvent être soupçonnés d'être la marque de la colère des dieux pour un aveugle de naissance, ou au contraire sont admirés, écoutés, parce qu'on pense qu'étant aveugle, il voit l'invisible.
Alors, on les supposait aussi parce qu'ils mendiaient, on les supposait de tricher sur leur sort. C'est vrai que pendant des siècles aussi, Zina Végan, on ne savait pas mesurer au fond la gravité que pouvait avoir la cécité. Il y avait aussi les aveugles de naissance, les aveugles partiels, ce qu'on appelle aujourd'hui les malvoyants. Et puis, est-ce qu'on a une idée du nombre des aveugles qu'il y avait, par exemple, au Moyen-Âge, quand commence votre livre?
Alors ça, malheureusement, pas non.
Proportionnellement, ils étaient plus nombreux qu'aujourd'hui, sûrement.
Écoutez, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, par exemple, au XIXe siècle, les premières statistiques, certainement peu fiables, mais enfin tournent autour de 35 à 40 000 aveugles, et des statistiques du XXe siècle qui ne sont pas non plus exactes, parce qu'il n'y a pas vraiment de recensement efficace du handicap et de la cécité, tournent autour des mêmes chiffres. Alors le problème, c'est que ce ne sont pas les mêmes causes.
Alors les causes, justement, dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, d'abord des aveugles nés, des aveugles de naissance.
Alors, des aveugles vraiment de naissance, ça peut être une malformation congénitale à cette époque comme plus tard. Des aveugles d'enfance, il peut y avoir des causes, par exemple, dues à la malnutrition, qu'on trouve encore aujourd'hui dans les pays en voie de développement, où les enfants peuvent souffrir d'avitaminose C, par exemple. d'avitaminose A, par quoi, excusez-moi. Et bon, la malnutrition, la mauvaise hygiène, la promiscuité, et puis des maladies épidémiques. Et bon, dans les siècles passés, en particulier la variole, qui a été une grande pourvoyeuse de cécité.
Il y a les accidents du travail, les guerres aussi.
Alors ça, bien sûr, pour les aveugles plus tardifs. Oui.
Alors, vous mentionnez quelques rares aveugles célèbres, comme le doge de Venise d'Andolo au XIIe siècle. La plupart, il y avait une différence selon les conditions, bien sûr, des aveugles. La plupart d'entre eux étaient pris en charge quand même par leur famille au Moyen-Âge déjà.
Oui, bien sûr. Ça, au Moyen-Âge comme par la suite, des aveugles sont pris en charge par leur famille. Si la famille est une famille aisée, tant mieux pour eux. Si c'est une famille très pauvre, où on a peu de moyens de lui venir en aide, bon, il peut être voué très tôt à la mendicité.
L'aumône, s'il vous plaît, donnez aux pauvres aveugles. Puisse le Seigneur vous donner le bonheur. Que Dieu vous donne une bonne santé.
S'il vous plaît.
Tout le monde donne aux aveugles, bien sûr.
Il est clair, il n'aurait pas la moitié de ce qu'il
a. Laissez-moi donc.
Les mendiants dans les rues des villes du Moyen-Âge, c'était un spectacle quotidien et habituel, en fait.
Bien sûr.
Navigants, hein.
Bien sûr. Et parmi eux, donc, de nombreux aveugles, dans les rues, sur les lieux de pèlerinage aussi, puisque là, on retrouve des foules d'infirmes qui viennent chercher la guérison, sur le tombeau d'un saint guérisseur, enfin, tout au moins réputé guérisseur, ou, bon, effectivement, tous les lieux publics où la foule peut contribuer à l'aumône.
Alors, on a attendu pendant très longtemps avant que l'État se préoccupe de venir au secours des aveugles. Et la première institution qui a été créée à cet effet, c'est Navegant, vous le rappelez, c'est un hôpital que l'on retrouve d'ailleurs tout au long de votre livre, puisqu'il il existe encore aujourd'hui, mais enfin, il ne fonctionne plus de la même manière. C'est l'hôpital des 15-20 qui a été créé par Saint-Louis au XIIIe siècle. Pourquoi on appelait ça les 15-20?
Alors, les 15-20, ça veut dire 300. C'est une façon de compter par vingtaine qu'on retrouve encore dans le mot 80. Et donc, c'est un hôpital qui a été fondé pour 300 pauvres aveugles de la cité de Paris. Et donc, au départ, Saint-Louis a donné une participation à la vie de l'hôpital. Et surtout, le fait qu'il soit de fondation royale a attiré sur lui l'attention des bourgeois de Paris, de personnes qui avaient l'idée de faire des aumônes à des institutions de ce genre, puisque l'aumône était pour le riche une façon d'accéder à la vie éternelle à travers les prières des pauvres auxquels ils donnaient de l'argent ou des biens, puisqu'en fait les 15-20 étaient propriétaires de maisons dans Paris, de fermes à Louvres, à Vinantes, qui étaient encore il y a peu de temps propriété de l'hôpital. Et donc, il y avait aussi beaucoup d'exemptions d'impôts. Les 15-20 étaient un espace, un enclos privilégié.
Alors la règle, c'était que la façon dont ils subvenaient à leurs besoins, les aveugles, ils logeaient au 15-20. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient même en famille, ils avaient droit à la présence de la famille.
Fait, oui.
Et ils vivaient justement de l'aumône, de la quête qui était autorisée, même quand on a interdit, je crois, au XVIIe, XVIIIe siècle, l'aumône. On l'a autorisée pour les pensionnaires du 15-20. Et quand elle était interdite, je crois que c'est pendant la Révolution, c'est Navegant, là, on a versé une allocation donc à ces aveugles du 15-20, si bien que d'ailleurs, ça a toujours été l'assistance. Le principe à l'époque, et pendant longtemps, ça a été au fond de porter assistance aux aveugles, et pas encore de les intégrer à la société.
Ah oui, ça complètement. Bon, c'était... en fait, la quête non seulement était autorisée, mais était encouragée, puisque c'était une façon de subvenir aux besoins de la communauté. Bon, c'était une quête de pain et quête d'argent, et que les aveugles quêteurs devaient remettre aux assemblées de ce qu'on appelait le chapitre, devaient remettre à l'hospice pour la vie de l'hospice.
Alors quand on s'intéresse à eux, vous le rappelez, ils naviguent au XVIIe, au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, quand Diderot écrit par exemple la lettre sur les aveugles, c'est un peu comme des objets de curiosité. On s'intéresse au fond, sur le plan purement philosophique, à ce que sont par exemple les aveugles de naissance.
Oui, et on s'intéresse en particulier à ce que peut percevoir un aveugle né qui retrouve la vision.
Alors les aveugles sont l'objet donc d'expériences, on leur donne une assistance, hein, mais personne ne songe encore à les rendre utiles à la société, sauf ceux bien sûr qui exploitent ces aveugles, comme dans ce film tiré d'un livre, Les deux orphelines, l'histoire de deux sœurs perdues dans Paris pendant la Révolution et dont l'une est aveugle et exploitée par une horrible mégère.
Qu'est-ce que vous faites là?
Mais, c'est rien mon bon officier, on se repose.
Vous savez que c'est défendu de mendier, et si je vous revois je vous fais jeter en prison.
On s'en va, venez mon oncle. Oh, quel bon Dieu, les griffes, c'est ça, Bouchard.
Madame.
Hein, qu'est-ce qu'il y a?
Madame.
Eh ben quoi?
Mais vous faites mendier.
Mais pourquoi pas?
Mais je ne veux pas.
Ah, je ne veux pas, et moi si je veux. Je vous ai recueilli, soignez comme une princesse. Ça coûte de l'argent, ça. Moi, j'ai pas de rente. Il faut que vous gagnez le pain que vous mangez.
Faites tout ce que vous voulez, je vous jure.
Ouais, et tu m'en diras?
Oui, je m'en dirai.
Non, méfie-toi, la mère, elle est mauvaise. Une fois dehors, elle va ameuter des passants.
Non, mais à quoi que ça l'avancerait? Elle est aveugle. On la mettra au 15-20 et n'en sortirait plus.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les aveugles.
Et vous entendez un extrait de La Sicilienne, une musique que nous n'avons pas choisie par hasard, puisqu'elle a été écrite par une aveugle très célèbre du XVIIIe siècle, Maria Teresa Fonparadi, dont vous parlez beaucoup dans votre livre, Zinavegant. Elle a joué un rôle important, celle qu'on entend, enfin celle dont on entend la musique en ce moment.
Absolument. C'était une jeune femme, une jeune fille en 1784, qui était donc d'origine viennoise et qui était musicienne et qui a fait une tournée de concerts dans toute l'Europe des Lumières. Elle est allée à Mannheim, elle est venue à Paris et à Paris en particulier, donc son séjour a une importance considérable sur l'avenir des aveugles puisqu'elle a rencontré pendant ce voyage, celui qui allait devenir le fondateur de la première institution destinée à l'éducation des aveugles de la classe indigente. Donc cette Maria Teresa Fonparadi ensuite continue sa tournée en Angleterre, en Belgique, et rentre finalement à Vienne, où elle a ouvert un cours pour des jeunes filles de la bonne société. Donc elle leur apprenait la musique et elle a composé un certain nombre d'ouvrages, d'opéras, de mélodies. Et elle a fondé une famille et elle a vécu connue et respectée. Voilà.
J'étais content d'avoir entendu cette musique composée. En tout cas, elle inspire, la cécité inspire une musicienne. Elle inspire aussi beaucoup d'écrivains du 19e siècle, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, la littérature du 19e siècle est riche en personnages aveugles, hein, tantôt admirables, tantôt repoussants, toujours cette opposition, hein, qui donne une idée, hein, sinon de ce que vivent réellement les aveugles, du moins la manière dont ils sont perçus par les autres, ceux qui voient. Hein, parmi les aveugles admirables, il y a par exemple Déa, dans L'homme qui rit, ce roman de Victor Hugo, une jeune fille éthérée et pure. Déa semblait un songe ayant un peu pris corps, écrit Victor Hugo. Il y avait dans toute sa personne, dans sa blancheur qui était presque de la transparence, dans l'auguste exclusion sereine de son regard divinement fermé à la terre, dans l'innocence sacrée de son sourire, un voisinage exquis de l'ange. Un personnage romantique, hein, on dira, mais pas vraiment humain. Alors dans Notre-Dame de Paris, toujours de Victor Hugo, alors là, changement complet de décor et de casting, l'aveugle est un affreux mendiant de la cour des miracles. Gringoire voulut doubler le pas, mais quelque chose lui barra le chemin. Ce quelque chose, ou plutôt ce quelqu'un, c'était un aveugle qui, ramant dans l'espace autour de lui avec un bâton et remorqué d'un gros chien, lui nasilla avec un accent hongrois « Facitate caritatem »« Faites la charité ». un aveugle qui se révélera pas aveugle du tout et vrai voleur un peu plus tard. Alors c'est bien d'ailleurs la hantise de celui à qui l'aveugle demande la charité. Est-il vraiment un aveugle ? Alors Gustave Flaubert, dans Madame Bovary, a brossé lui aussi un terrible personnage d'aveugle qui vient faire la manche sur le chemin de la diligence. Et là, Flaubert, de main de maître, montre plutôt la bêtise de la réaction du pharmacien M. Homais. Quand l'aveugle, comme d'habitude, apparut au bas de la côte, M. Homais s'écria « Je ne comprends pas que l'autorité tolère de si coupables industries. On devrait enfermer ces malheureux qu'on forcerait à quelque travail. » Le progrès, ma parole d'honneur, marche à pas de tortue, nous pataugeons en pleine barbarie. Puis M. Homais demanda à l'aveugle d'un ton paterne « Y a-t-il longtemps, mon ami, que tu as cette épouvantable infirmité ? Au lieu de t'enivrer au cabaret, tu ferais mieux de suivre un régime. » On le voit, l'aveugle est à la fois repoussant et fascinant, tout comme dans ce poème de Baudelaire. « Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux, pareils aux mannequins, vaguement ridicules, terribles, singuliers comme les somnambules, dardant on ne sait où leur globe ténébreux. » Que cherchent-ils au ciel, tous ces aveugles ?
Et là, avec Baudelaire, on est à la fin du 19e, mais vraiment une permanence dans les représentations des aveugles, vous le dites bien, Zinavégan, dans votre livre, à l'époque pourtant où une révolution s'est déjà opérée depuis un certain temps. Vous l'avez mentionné, c'était quelqu'un qui avait rencontré Maria Teresa von Paradis et qui s'appelle Valentin Ahuy, et lui va vraiment complètement changer à la fois la façon dont on perçoit les aveugles, mais aussi dont on les traite dans la société. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Valentin Ahuy, dont on a un peu oublié le nom aujourd'hui ?
Eh bien, Valentin Ahuy, qui était un traducteur et un écrivain, un maître écrivain, s'est intéressé justement à l'accès des aveugles à l'écrit. Et il s'est intéressé d'ailleurs aussi à l'éducation des sourds. Il a suivi les leçons de l'abbé de l'Épée qui était public. Et il a probablement eu envie de faire pour les aveugles ce que l'abbé de l'Épée avait fait pour les sourds. Et cette envie chemine dans son esprit pendant des années. Il raconte aussi qu'il a eu le spectacle sous les yeux d'un concert burlesque qui l'a scandalisé, où des aveugles jouaient des notes discordantes devant un public qui riait beaucoup de leur infirmité, de leur maladresse. Et donc, il décide de fonder une école pour les aveugles de la classe indigente, puisque jusqu'alors, évidemment, les aveugles de familles aisées étaient parfois justement éduqués, soit par le biais de l'oral, soit au XVIIIe siècle par le biais du toucher. On a quelques exemples, dans Diderot notamment. Et il décide, après en particulier avoir rencontré Maria Theresia von Paradis, qui lui montre des dispositifs dont elle se servait pour correspondre avec les voyants, pour lire des cartes géographiques en relief. Enfin, il décide de fonder une école où seraient admis des aveugles pauvres. Et pour ce faire, il reçoit l'aide de la société philanthropique, puisque c'est une œuvre qui est portée par le mouvement philanthropique du XVIIIe siècle.
Et une œuvre qui va continuer, ça va être l'institution pour les jeunes aveugles, je ne sais pas comment exactement, quelle question.
À cette époque, ça s'est appelé institution des enfants aveugles, puis institution des jeunes aveugles sous la Révolution, institution nationale des aveugles travailleurs. Ce qui dit déjà le but de l'institution.
Oui, parce qu'alors, à la fois on les intègre par le travail et par l'instruction qui une instruction collective, et la révolution continue, alors que ça a été créé en 1785, 4 ans avant la révolution, la révolution continue. En revanche, ce pauvre Valentin Ahuy, dont on a oublié le nom, c'est un peu un échec pour lui. Il est obligé de partir à Saint-Pétersbourg en 1806 pour créer d'ailleurs la même institution en Russie, mais c'est un petit peu un échec en définitive, au début en tout cas pour lui.
C'est-à-dire que Valentin Ahuy a été très célèbre et très populaire à la fin du 18e, mais il a été jacobin, et sous le consulat, il a eu maille à partir avec le gouvernement consulaire pour ses idées révolutionnaires, parce qu'il a été fondateur d'une religion, la théophilanthropie, qui n'avait pas les faveurs du premier consul. Enfin bon, il y a eu des raisons politiques aussi à son échec.
Alors c'est pourtant, et ça c'est quand même un succès posthume, mais c'est quand même un succès dans la mesure où c'est dans cette institution que pour la première fois, deux personnes ont envisagé successivement de faire lire les aveugles. C'est Braille, bien sûr, tout le monde le connaît, mais avant Braille, un homme dont plus personne ne parle non plus, et dont vous parlez longuement, qui est Barbier de la Serre, et dont on a oublié, c'est lui qui est le premier, au fond, à avoir inventé une méthode de lecture pour les aveugles.
C'est-à-dire que Valentin Huy avait déjà fait imprimer des livres en relief, mais c'était du relief linéaire, c'est-à-dire c'était l'écriture de tout le monde en relief. Et l'idée de Barbier, reprise par Braille, c'est qu'il serait plus facile pour les aveugles de lire des points. Et effectivement, c'est une méthode de lecture qui est beaucoup plus accessible au toucher, la lecture en points que la lecture linéaire. Donc Barbier a fait un code. Il l'a fait tester par des aveugles des 15-20, par des aveugles de l'institution des jeunes aveugles, mais ça n'était qu'une sonographie. C'est-à-dire que Barbier, il avait envisagé l'idée d'une écriture universelle, et pour lui, l'orthographe, ça n'avait pas beaucoup d'importance, c'était même peut-être un obstacle. En fait, dans une école où on doit apprendre justement l'orthographe et la lecture, il est important d'avoir un alphabet. Et c'est l'innovation de Braille qui, reprenant le code de Barbier, en a fait d'abord un code à 6 points beaucoup plus facile d'accès sous le doigt, alors que le code de Barbier était à 12 points. Et d'autre part, il en a fait un alphabet qu'il a adapté aussi aux mathématiques. Enfin, il a adapté ce code aussi pour les mathématiques et pour la musique.
Braille qui était, il faut le rappeler, aveugle à 3 ans et qui donc était membre de cette institution et qui a de l'institution de Valentin Huy et qui est mort en 1852 et qui, un siècle plus tard, dont les cendres étaient transférées au Panthéon le 22 juin 1952 devant le micro de Michel Droit.
Ici, le boulevard des Invalides, à l'instant où le char funèbre transportant les restes de Louis Braille vient de quitter l'institution des jeunes aveugles pour gagner le Panthéon où l'homme qui a fait lire les aveugles reposera désormais. Voici maintenant ce qui est certainement le spectacle le plus bouleversant de cette matinée. Voici que s'avancent les jeunes aveugles qui se tiennent par le bras pour guider leur marche. Voici les jeunes aveugles qui suivent le corps de celui qui, à défaut de leur rendre la vue du monde, leur a donné au moins les yeux de lire.
C'était donc le transfert des cendres de Braille au Panthéon en 1952, une cérémonie très émouvante comme cette lettre d'un collégien africain que vous citez à la fin de votre livre, aux Inavégants, je le cite, « Comme le Nil est un don pour l'Égypte qui rend les terres fertiles aujourd'hui comme hier, pour moi le Braille est un trésor incomparable. » Et ce jeune enfant, ce jeune écolier africain dit que avant il mendiait, avant de découvrir le système Braille, et il dit « Je me suis alors accroché de toutes mes forces à cette lumière et je me suis rendu compte que je n'étais pas le dernier des enfants des hommes. » C'est magnifique parce que le système Braille, il est maintenant utilisé dans le monde entier.
Oui, c'est un système qui a été adapté à énormément de langues, à pratiquement toutes les langues. Et c'est donc ce rêve d'écriture universelle qu'avait eu Barbier avant Braille, c'est réalisé par le Braille qui est devenu un système effectivement de lecture et d'écriture universelle. Enfin,
et pourtant, on en parle relativement peu aujourd'hui de Braille quand on pense vraiment à ce qu'il a fait. Cette lettre de cet écolier africain est émouvante. Braille est mort il y a 150 ans, Inavégant. Qu'est-ce qui a été fait depuis pour les aveugles, à la fois pour leur vie dans la société, et aussi pour le regard que l'on porte sur eux, qui n'a plus rien à voir évidemment avec celui dont on les voyait au Moyen-Âge?
Eh bien, tout d'abord, depuis la loi de 75, la scolarisation est, si possible, dans des écoles, l'école de tout le monde, obligatoire pour les aveugles, parce que le principe de l'éducation scolaire obligatoire de Jules Ferry était étendu aux aveugles et aux sourds, mais rien n'avait été vraiment fait. Et l'institution des jeunes aveugles est restée longtemps la seule institution en France, du moins au XIXe siècle, avec quelques institutions où les aveugles étaient souvent regroupés avec des sourds, des petites institutions privées. Mais pendant longtemps, il y a eu peu d'écoles vraiment vouées à l'enseignement des aveugles. Donc le XXe siècle a effectivement contribué à une meilleure intégration. L'informatique a été une révolution technique qui a été très très favorable pour l'accès des aveugles aux moyens de communication. Pour ce qui est de la, du regard que la société porte sur eux, j'estime que c'est un regard qui est encore très ambivalent.
Mmh. Et donc ça s'est limité un peu à appeler les aveugles des non-voyants, hein, c'est dans les années 70.
Oui, dans la bonne tradition de la langue de bois. Qui...
Merci en tout cas Zina Végan de nous avoir rappelé donc, cette histoire des aveugles qui a été très rarement écrite. Je crois que très peu de livres en général sur les handicaps et notamment sur les aveugles ont été écrits. À part le vôtre justement, Vivre sans voir, les aveugles dans la société française du Moyen-Âge au siècle de Louis Braille. Un livre qui vient d'être publié chez Créafis. Vous avez également écrit deux autres livres, Les causes de la cécité et les soins oculaires en France au début du 19e siècle, publié par le Centre technique national d'études et de recherche sur le handicap et les inadaptations. Enfin, Handicap, pauvreté et exclusion dans la France du 19e siècle, un ouvrage paru aux éditions de l'Atelier. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, disponible en vidéo, et Les deux orphelines, un film de Maurice Tourneur, édité par René Château Vidéo.